Bonsoir à tous. Ah, ça marche pas. Bravo. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Merci d'avoir dit oui. Pour la 24e fois, je dis oui. On rompt tout le record. Et le thème ce soir, en fait, c'est comment dire, un peu risqué comme thème, parce que c'est la première fois que je m'aventure sur des thèmes un peu plutôt philosophiques. Et ça risque de dégrader un peu dans le politique. Donc, priez pour moi. Mais je trouve que c'est très important parce qu'en fait, ces thèmes, le thème, c'est la loi naturelle Kesako. En fait, c'est venu dans deux ou trois dîners, discussions que j'ai eues récemment. Donc, je dis, peut-être c'est l'Esprit Saint qui est en train de m'inspirer de parler de ça. Et vous allez évaluer à la fin si c'était vraiment lui ou c'est autre chose. Donc, alors, on peut, dans l'Église aujourd'hui, on peut identifier trois niveaux des lois. Vous avez la loi divine, donc tout ce qui est révélé par Dieu, tout ce que tu trouves dans la révélation, dans la Bible. Vous avez le décalogue, surtout le décalogue. Après, Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, jusqu'à aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui te font mal, faites aux autres ce que tu as envie qu'ils fassent pour toi, etc. Ce sont tous les commandements que Dieu nous a révélés. Si quelqu'un demande de marcher à la distance d'une stade, de marcher d'eux, si quelqu'un me réclame ton manteau, donnez-lui aussi sa tunique, etc. Donc ça, c'est la loi divine. Après, vous avez un autre niveau, ce sont les lois positives. Positives parce qu'elles sont posées par les hommes. Elles sont toutes les lois de nos États. Donc, ce qui règle l'ordre civil, le code pénal, le code de la route, les impôts, etc. Et après, il y a un autre niveau. C'est la loi, ce qu'on appelle naturelle, parce qu'on considère que c'est un niveau de loi qui est intrinsèque à la nature humaine, qui peut être démontré simplement par la raison. Parce que ces types de lois sont considérées comme des choses qui sont évidentes et logiques. Par exemple, le droit à la vie, le droit de se marier, le droit de vivre où ce qu'on veut, éduquer nos enfants, etc., avoir la propriété privée, etc. Toutes ces choses-là, ils sont issus du fruit d'un raisonnement que tout le monde, normalement, doit pouvoir accéder et accepter. Donc, dans ces trois domaines ou ces trois niveaux de loi, lequel est-ce que vous pouvez considérer le plus important? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces trois choses?
Ben oui.
Ben oui, il y a une hiérarchie, oui. Si vous mettez en premier la loi divine, ben c'est la loi la plus complète, la plus pure, parce qu'en plus, ça vient de Dieu, et Dieu, c'est pas mal. Donc la loi divine doit être en premier. Mais il y a un problème. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent, mais tu me fais une loi, mais parce que Jésus a dit que, ben, je ne crois pas en Jésus, moi. Donc on a déjà perdu une bonne partie de la civilisation. Et en plus, il deviendra, si un État met en premier la loi divine, ça devient une religion de l'État, qui est imposée par exemple, le charia, etc. Deuxièmement, la Bible, même si c'est très bien, il y a beaucoup de sujets dedans qui ne les traitent pas dans l'ordre de notre société. Ils ne sont pas dans tous les détails. Donc, ils ne sont pas assez spécifiques. Et troisièmement, il y a beaucoup de préceptes que tu ne peux jamais convertir en loi. Tu ne peux jamais transformer en loi civile. Aimer vos ennemis, par exemple. Tu peux imposer à quelqu'un d'aimer son ennemi. Ou pardonner voilà, ce qui te fait mal, voilà, pas 7 fois, mais 70 fois, pas 7 fois, parce que Jésus a dit, tu ne peux pas imposer par une loi civile de pardonner quelqu'un. Tu peux pas imposer. Donc, ce n'est peut-être pas la loi divine. Alors, certains militent pour que la loi positive, c'est la loi de l'État qui doit être en premier, et voilà, c'est le plus important, parce qu'on est tous des citoyens. Donc, on doit, comme bon chrétien, ou peu importe, bon citoyen, obéir en premier tout ce que l'État promulgue comme des lois. Sinon, on va être contre la loi, et ce n'est pas bon. Tu peux discuter, parlementer, voter pour les lois, même participer à sa construction. Mais une fois que cette loi est passée, il n'y a plus de raison d'en discuter, parce que c'est la loi maintenant. Et en plus, si la majorité des citoyens la veulent, tu ne fais pas partie de la majorité, tant pis pour toi. Mais tu dois accepter ce que la plus grande majorité de gens veulent. Voilà. Et en plus, c'est fait par les gens qui ont voté pour le représenter. Là aussi, il y a un problème. Parce que le simple fait qu'une majorité de personnes soient d'accord n'est pour rien une garantie qu'ils ont raison. Et l'histoire aussi nous montre à maintes reprises qu'un gouvernement peut être aussi corrompu, peut être sujet à une certaine idéologie, une conception de l'homme complètement loufoque, qui donne naissance au nazisme, au communisme, etc., avec tout ce que ça nous entraînait. Qui donne aussi une forme de politique qui ne cherche pas le bien commun, mais qui cherche plutôt le pouvoir. Et si je veux plus de monde pour voter pour moi, voilà, on a le pouvoir, donc maintenant on va pouvoir mettre toutes les lois que nous on veut. Troisième option, la loi naturelle. En tout cas, dans l'Église, on considère que la loi naturelle précède tout. Il précède l'État, il précède même Dieu, même si on considère que Dieu est aussi l'auteur, parce que celui qui a créé la nature humaine. Donc, voilà. Mais il précède en tout cas la religion. Parce que cette loi naturelle, parce que c'est fondé juste sur la nature de l'homme et sur la raison, donne une base solide sur laquelle on peut vraiment construire le reste. Tout homme, toute femme, de bonne volonté, est capable de le reconnaître. Ça peut être quasi universel. Et peu importe si tu es croyant ou pas croyant, si tu es de gauche ou de droite, peu importe, mais toute personne ou ces lois naturelles sont des choses qui sont accessibles, qui sont la base de tout. Et tu vois comment, si on fait ce type de construction, vous avez la loi naturelle, la loi positive et la loi divine, tu vois comme ces trois choses se construisent l'un sur l'autre. La loi naturelle basée sur la raison, capable d'être compris et accepté par tout homme de bonne volonté. Une loi positive, la loi positive ne peut pas contredire ce que dans la loi naturelle. Sinon, c'est injuste, parce que c'est contre la nature de l'homme, tu vois. Et la loi divine, il ne va jamais contredire les deux autres. Donc, c'est créer une hiérarchie où il est basé sur quelque chose qui est solide et acceptable par tout le monde. C'est pas c'est pas l'Église qui a inventé la loi naturelle. C'est quelque chose qui précède aussi le christianisme. Et c'est issu de Aristote, le philosophe grec, etc. qui posait beaucoup de questions, comment on doit gérer de façon juste une société. Et donc, c'est eux qui ont élaboré la première base de ce qui peut être la loi naturelle qui est accessible à tout homme doté de raison. Donc, l'Église a beaucoup ensuite réfléchi sur cette notion de la loi naturelle. Il est beaucoup développé aussi. C'est Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, c'est le premier, avec le redécouvert d'Aristote. Et ça donne cette magnifique base pour entrer en dialogue avec les gouvernements de l'époque, pour les aider mieux discerner si leurs lois sont justes ou pas. Pas parce que l'Église dit, parce que c'est l'Évangile ou peu importe. C'est parce que si tu raisonnes et tu réfléchis, tu serais capable de dire cette forme de racisme ou cette forme d'esclavage, etc., c'est juste contre les dignités de l'homme. Et ces dignités de l'homme deviennent la base, voilà, d'accepter qu'on est tous, on est tous de même dignité, pas plus les uns que les autres. Et dès qu'on accepte cela, découlent toutes les conséquences. Après, vous avez Léon XIII, le pape Léon XIII. Il est pape fin du XIXe siècle, début de 20e. Et il a écrit une première encyclique qui forme la base aujourd'hui de notre, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est Rerum Novarum qui manifeste, qui décrit beaucoup de choses qui font partie de la loi naturelle. Et parce qu'il dit, c'est dans la nature de l'homme de faire le bien et d'éviter le mal. Et parce que l'homme, il est censé, par nature, de chercher ce qui est bien, et un bien commun en plus, il doit avoir droit à la propriété privée, il a droit de l'association, par exemple le syndicat, il a droit à un salaire décent. Il a droit à des horaires raisonnables de son travail. Il a droit à un repos sabbatique. Il a droit à l'éducation. Il a aussi droit à la vie de famille. Donc, quand je vous dis toutes ces choses, est-ce qu'il y a des choses dans cela qui vous choquent? Mais non. Non, parce que c'est. Il nous semble le béaba, c'est évident. Que ces choses-là, on doit sauvegarder et avoir une société qui respecte toutes ces choses-là. Après, Léon XIII, il va dire, mais il y a quand même des inégalités sociales et que le communisme essaie de combler cette, voilà, en enlevant la propriété privée, en enlevant d'autres droits, droit d'association, moi, le droit d'association, il voulait, mais qui crée voilà, ces inégalités sociales. Pour Léon XIII, il dit, il n'y a pas un problème que les sociétés, il existe des inégalités. Parce que, si tu regardes la nature humaine, on n'a pas reçu tous le même don. On n'a pas tous le même talent. Donc c'est normal que certains, ce sera plus futé que d'autres, qu'il y ait d'autres occasions que les autres, ils n'ont pas. On n'a pas on grandit dans tout ce même milieu. Mais Léon XIII, il ne va pas dire qu'il ne faut pas que tout le monde reçoive exactement le même et partout. Parce qu'il dit c'est contre la nature. Donc le fait qu'il y ait des inégalités sociales qui existent, pour Léon XIII, en tout cas, de base, ce n'est pas un problème. Mais c'est là où le concept qu'il a introduit. Avec cela, qui donne toute sa rondeur à cette doctrine sociale, il dit, mais ceux qui ont reçu plus que d'autres, plus grand leur responsabilité envers celui qui a reçu moins. Tu vois, et ce n'est pas basé sur une obligation sociale, même si l'État a besoin de construire là-dessus pour légiférer, pour que ça passe. Mais dans la loi naturelle, il dit, mais parce que tu es un homme et tu es censé de vouloir le bien et éviter le mal, tu es capable de reconnaître que ton frère, qui a reçu moins que toi, aurait besoin de ton aide. Donc ce n'est pas une loi de l'État qui doit, ou même la loi de l'Évangile, mais si tu es quelqu'un de bonne volonté, tu seras capable d'être assez philanthropique pour aider ton prochain. Tu vois? Il introduit la notion de solidarité, ce qu'il vient d'écrire. Le plus que j'ai reçu, plus grand ma part de responsabilité, donc je dois être solidaire avec celui qui a moins. Mais aussi la notion de la subsidiarité. Subsidiarité, c'est difficile à prononcer, mais plus facile à vivre. Ça veut dire que l'instance la plus grande dans une société doit laisser sa place aux plus petites instances possibles pour gérer sa propre, ce qu'il peut faire. Et il intervient uniquement quand la petite instance n'arrive pas à le faire toute seule. Par exemple, on a droit à l'éducation. Mais vous n'êtes pas forcément. Donc, la plus petite cellule, c'est la famille. Et après, c'est la communauté, et après, c'est l'État. Donc, dans l'éducation, le premier éducateur de vos enfants, ce sont les parents. Et l'État ne peut pas intervenir dans votre éducation que vous lui donnez, parce que ce n'est pas subsidiarité. Mais vous n'êtes peut-être pas très fort en maths. Comment est-ce que votre enfant va recevoir une éducation voilà, correcte? Ou peut-être en SVT, ou même, tu n'as même pas le temps de le faire. Donc l'État voit que tu n'es pas capable de fournir à votre enfant et à votre demande. Et organiser les écoles pour que votre enfant reçoive. Donc, c'est le plus grand qui intervient uniquement quand le petit n'arrive pas à le faire. C'est la subsidiarité. Tu vois, dans le communisme, c'est la subsidiarité qui n'existe pas. C'est l'État qui contrôle tout contre la volonté de, voilà, de une famille, etc. Quand j'étais à Boulogne, j'avais un prof de. Était paroissien, mais était doyen de HEC pour toutes les affaires économiques, politiques dans le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Il m'expliquait en Chine, il dit pourquoi la Chine se développe si rapidement? Parce qu'il dit là, il regarde la carte, il dit bon, il faut un aéroport là. Avec une autoroute là et un service de distribution, voilà. Et quelqu'un va dire, oui, mais il y a des villages là, des gens qui habitent. Tant pis. C'est l'État qui dit. Il dit, je peux admirer qu'ils sont très efficaces, mais qui va contre, voilà, ce qui est les droits de l'homme. Donc ils n'ont pas le droit de le faire. Pas parce que je suis contre les Chinois, mais c'est juste parce que c'est contre la loi naturelle. Et aussi cette notion de bien commun, de reconnaître qu'il existe un bien qui te passe ou que plus grand que le bien individuel et que je dois respecter aussi. Par exemple, je veux me débarrasser de mes déchets. Et donc, je ne veux plus que c'est chez moi. Ce serait bien de me débarrasser de ça. Donc, je mets ça, je sais pas, dans le bois ou le parc Saint-Cloud. Pour moi, le problème est réglé. Mais pour le bien commun, tu dis, Richard, donc tu vas à la déchetterie, tu le poses là-bas. Parce que c'est mieux pour le bien commun. Oui, mais je n'ai pas envie d'aller. Mais au nom du bien commun, tu es capable de reconnaître. C'était bien que tu cherches, la solution que tu proposes n'est pas adéquate, parce qu'il va contre de ce qui est bien pour les autres. Je me souviens de le débat télévisé de Ségolène Royal, ça date maintenant. Et je me souviens, Après, je me rappelais pourquoi je regarde jamais les débats politiques, parce que ça m'énervait à un point. Donc, un meeting, il y a un qui dit, OK, question. Un qui dit, ah, je suis infirmière. Qu'est-ce que tu vas faire si tu es présidente? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi, infirmière? Ah, très bonne question, parce que justement, nous, ces jeunes, on va faire ta, 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 tous ces avantages. Oh, c'est voilà. Bon, je suis retraité. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, le retraité? Très bonne question, parce que justement, je prévu ta, 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 voilà. Je suis. Je sais pas. Et chaque personne qui levait la main, elle disait, et moi, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et elle a répondu à tous des choses extraordinaires. Mais moi, je vais la lever la main, je dis, mais tout ce que vous promettez à tous, est-ce que c'est vraiment bien pour le société? Comment on va payer pour ça? Et qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble? Si tu donnes moins à moi, infirmière, aux retraités, aux peu importe, est-ce que c'est mieux pour l'État que ce soit comme ça? Un peu comme dit JF Kennedy, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais que tu peux faire pour ton pays. Le bien commun. Mais aujourd'hui, comme dans le passé, l'existence de cette loi naturelle est contestée, contestée. Et des gens qui ne le croient pas, qui avec beaucoup de conséquences. Le premier qui a vraiment soulevé l'idée que cette. Bon, en tout cas, il a accepté une loi naturelle, mais il a complètement changé le contenu, c'était Thomas Hobbes. Voilà. Oh. Hobbes. Bon, en français, on dit Hobbes, mais je prononce mal, qui est un philosophe du 17e siècle en Angleterre. Et lui, il dit, oui, il y a une loi naturelle, mais la nature de l'homme, ce n'est pas de chercher le bien, de faire le bien. Parce que de nature, l'homme, c'est un sauvage. Et c'est le loup pour son prochain. Et donc, parce que l'homme, il est pas bon, il n'est pas enclin de faire le bien et éviter le mal, mais il est foncièrement égoïste de nature. Donc, si tu veux suivre la loi naturelle doit être chacun pour soi. C'est l'autopréservation. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Un peu comme le débat avec Ségolène. Après, Hobbes, il devient John Locke, aussi anglais, même époque, qui dit, je suis d'accord qu'il y a une loi naturelle, mais les hommes, ils sont plutôt anarchiques. Ils acceptent, mais contre la nature, d'entrer en société pour mieux protéger leur vie, leur liberté et le bien. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, je dois m'associer aux autres pour qu'ensemble, on s'entraide pour que je veux sauver ma peau et sauver ce qui est mien. Donc, ils cherchent un moyen de se gouverner qui va garantir à chacun ses droits individuels. Mais on ne peut pas être tous d'accord. Donc on vote. Donc il n'y a plus un concept de bien commun, mais c'est plutôt un concept de comment avoir le pouvoir pour faire passer la loi qui va garantir à moi ce que je veux. Tu vois comme cette façon de penser qui est contraire de ce que l'Église voit a donné naissance à tout un système d'exploitation pendant la période de l'industrialisation. Parce que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui avaient le grand bien. Donc, ils exploitaient toutes ces personnes parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas tous égaux. Ils ont tous. La nature humaine, c'est chacun pour soi. Donc, si vous n'êtes pas assez fort pour lutter contre le système, d'être de notre côté, mais c'est ton problème. Ce n'est pas notre problème. C'est une forme de capitalisme sans borne, quoi. Mais tu vois, ce capitalisme, il est, quand il est marié avec une mauvaise conception de l'homme, de la nature de l'homme, tu peux justifier le pire des exploitations. Et tu vois comment après, cette erreur, mais grave, le contre-courant, le contre-pouvoir de ça, c'est le communisme. Il dit, voilà, pour lutter contre ça et pour protéger la classe ouvrière, ben, il faut qu'on s'organise, mais on va prendre des armes, on va prendre ce qui est le nôtre. Mais avec la même conception de l'homme. Chacun pour soi, mais on va s'entraider pour que... Voilà. Mais pour faire cela, vous n'avez plus droit à avoir de propriété personnelle. Tout vient à l'État. Et nous, on va organiser tout pour vous. Ce qui est contraire à la nature de l'homme. Tu vois, comme au cœur de ces problèmes, c'est une mauvaise conception de l'homme. On peut parler politique, on peut parler système, etc. Mais en fait, l'Église, ce n'est pas son rôle de savoir, de dire qui pour voter, quelle forme de gouvernement il faut avoir. L'Église est là pour nous donner des bases sur lesquelles il nous aide à juger tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Et si vous avez une mauvaise conception de l'homme, où tu le vois comme juste un individualiste, un égoïste de nature, ça veut dire que tu vas accepter toute forme de gouvernement pour chacun. Ou c'est juste une façon de représenter le plus grand nombre d'individus. Pas un grand nombre, tout le monde cherchant un bien commun, pour qu'ensemble on peut créer quelque chose qui est bien. C'est juste, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je pense, et on va voir qui a le plus de votes à la fin. Dès que tu sépares cette notion de bien commun ou la nature de l'homme qui est foncièrement bon, ça donne naissance à toutes les dérives dans une société. Donc nous, comme chrétiens, on doit vivre dans la société, mais le Seigneur nous appelle de le construire. Donc, ce n'est pas au nom de Jésus que je vais dire « cette loi est injuste ». Même si Jésus n'est pas d'accord avec cette loi, ou il est favorable à une autre, ce n'est pas parce que Jésus demande. Parce que ça ne va pas être accepté par tout le monde. Mais si on peut démontrer la vraie nature de l'homme, qui est une question peut-être plus philosophique, mais d'une extrême importance, ça nous donne la capacité de raisonner avec les autres pour dire, tu vois, tu ne peux pas faire ça parce que ça va à l'encontre de la nature d'un tel ou d'un tel groupe. Et ensemble, on va trouver de bonnes solutions qui respectent les dignités de tous, qui cherchent un bien qui est commun, qui parfois passe par moi, je me prive, mais volontairement, parce qu'il y a un bien majeur qui est ce qu'on cherche. Donc, je réfléchis longtemps comment je vais trôner ça en question pour discuter, parce que pour ça ne devient pas une discussion politique. Donc, la question, ce serait le second. Dans vos petits groupes pour discuter. Si l'Église défend que l'homme est foncièrement bon, qu'il cherche le bien et essaie d'éviter le mal, mais il n'y arrive pas toujours, je vous invite à essayer de trouver ensemble des exemples pour appuyer ces positions. De manifeste que l'homme aspire à faire le bien. dans vos expériences, voilà, voilà, pour montrer, j'espère, si vous en trouvez, de montrer que l'homme, il est foncièrement bon. Et vous êtes sûrement témoin des choses. Vous pouvez parler de votre propre expérience. Parce que si ce n'est pas vrai, tout le reste n'a plus de sens. Donc. Je promets que la prochaine fois, c'est beaucoup plus léger. Donc. Allez, à l'attaque. Groupe de 5 ou 6.